Notre invitée, Danielle Lechac. Bonjour madame.
Bonjour.
Professeure de droit émérite à l'Université Paris-Nanterre, membre du GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés, dont vous avez été la présidente de 1985 à 2000. Vous êtes également membre de la Ligue des droits de l'homme, dont vous avez été aussi la vice-présidente. Deux semaines après les révélations de CNN d'un marché aux esclaves en Libye, la question migratoire s'est invitée au cœur du sommet Europe-Afrique qui s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, cette semaine. Mercredi soir, le président Macron a qualifié cette situation de crime contre l'humanité. Il a demandé la saisine de la Cour pénale internationale et il a annoncé un plan d'urgence pour lutter contre le trafic d'esclaves. D'où cette première question, Danielle Lechac. Est-ce que la réponse est à la hauteur de la situation ?
La réponse est surtout inadaptée. Bon, d'abord, ça fait quand même très longtemps qu'on sait ce qui se passe en Libye. Et là, on a un petit peu le même phénomène qui s'est produit avec le petit Thaïlande. C'est que tout d'un coup, cette vidéo, enfin tant mieux, hein, a ouvert les yeux sur un aspect de ce qui se passe en Libye. Bon, marché aux esclaves, d'ailleurs, l'expression n'est pas tout à fait exacte, c'est pas tout à fait de l'esclavage, mais le fait est qu'en Libye, il y a des crimes contre l'humanité. Alors reste à savoir qui en est responsable. La responsabilité première, admettons bien sûr que c'est celle des trafiquants, mais on doit quand même s'interroger sur le point de savoir quelle est la responsabilité des États européens et de l'Union européenne dans cette affaire. Car la façon dont ils gèrent la question migratoire et la question de l'asile encourage évidemment et permet à ces forfaits de se perpétrer.
De quelle manière, Danielle Lechac ?
Alors, de plusieurs manières. D'abord, le fait que lorsque les migrants, qui sont des dizaines de milliers, en fait, voire des centaines de milliers, à être maltraités en Libye, mais depuis des années, bien avant la guerre actuelle et du temps de Kadhafi. Donc, le fait d'empêcher ces migrants de sortir de Libye avec Frontex, avec une politique de fermeture des frontières. Voilà. Et puis, depuis quelque temps, on confie aux gardes-côtes libyens le soin de faire du sauvetage en mer. Alors moi, j'ai entendu un responsable de l'Union européenne dire « Mais si, on fait quelque chose, on les forme, les gardes-côtes libyens, pour le sauvetage en mer. » Mais qu'est-ce qui se passe quand on les forme pour le sauvetage en mer ? Ça veut dire qu'on empêche ces bateaux de sortir des eaux territoriales libyennes. On empêche donc tous les bateaux, genre Aquarius, etc., qui sont mis en place par les ONG, de leur porter secours. Ce sont les gardes-côtes libyens qui, le cas échéant, effectivement, leur portent secours. On peut dire les sauvent de la noyade, mais à quel prix ? En les faisant retourner en Libye.
Donc ce que vous dites, c'est en plein accord avec la tribune cette semaine dans Le Monde de Thierry Lafort du Verger de MSF, de Médecins Sans Frontières, qui dit que favoriser l'interception en mer de migrants par les autorités libyennes et dénoncer leurs conditions de détention sur place est pour le moins hypocrite. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Absolument, absolument. Et lorsque Emmanuel Macron dit qu'il faut absolument arrêter ce qui se passe en Libye, soit, mais qu'est-ce qu'il propose ensuite pour ces migrants, il propose de les rapatrier, où ça ? Dans les pays dont ils viennent.
Pas seulement, il propose, et la France va d'ailleurs en accueillir 25, des migrants évacués de Libye en janvier par le Haut Comité aux réfugiés, le HCR. Il a fixé d'ailleurs, Emmanuel Macron, un objectif de 3000 personnes d'ici à 2019.
Oui, 3000 personnes d'ici à 2019, vous voyez à peu près ce que ça veut dire sur des centaines de milliers de personnes qui sont maltraitées.
Il faudrait en accueillir plus pour vous ?
De toute façon, indépendamment même de la question de la Libye, disons que les propositions d'accueil de la France sont absolument dérisoires. Que ce soit en relocalisation, c'est-à-dire ce système qu'on a mis en place en 2015 pour soulager l'Italie et la Grèce, qui sont les premiers pays d'accueil, ou ce qu'on appelle la réinstallation, qui est un autre processus, qui est d'aller chercher des migrants installés dans des pays du Sud, disons, pour faire vite, pour les accueillir en France. Mais même là, on est, comme vous le dites, sur 3000. Il faut quand même voir que Angela Merkel, indépendamment du fait qu'elle en a accueilli 1 million À un moment donné, elle s'est fait taper sur les doigts, elle n'a pas été
soutenue. Et on voit le résultat aujourd'hui, puisque
oui,
c'est pour cette raison-là
maintenant vous remarquerez que pour, comment dirais-je, pour jeter du lest, elle a dit, bon, ça ne sera pas plus que 200 000. Bon, donc pour jeter du lest face à la droite qui n'admet pas sa politique, elle en est quand même, elle est descendue à 200 000. Mais c'est 200 000, c'est pas 3 000. Donc là aussi, il y a un problème.
Daniel Lechac, Emmanuel Macron a parlé d'opérations d'évacuation d'urgence hein, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Effectivement, de rapatrier chez eux ceux qui le désirent. Que vont devenir ceux qui ne vont pas bénéficier du droit d'asile, ceux qui ne voudront pas non plus être rapatriés chez eux? Comment ça se passe dans ces cas-là? Que peut le droit dans ces cas-là?
Bonne question. Rien du tout. Je pense qu'il faut, dans l'état actuel des choses, on ne va pas faire une intervention en Libye. Hein, je pense que ce n'est pas tout à fait la solution. En vérité, il faut traiter le problème à la source, c'est-à-dire modifier la politique migratoire elle-même, c'est-à-dire que laisser les personnes arriver jusqu'en Europe sans les obliger à passer par toutes ces routes absolument catastrophiques, à la fois par rapport au droit à la vie ou par rapport au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Si les gens... Alors, parmi les personnes qui se trouvent en Libye, il y a effectivement des anciens migrants qui allaient en Libye malgré les mauvaises conditions pour gagner leur vie, puisqu'il y avait des opportunités, comme on dit, quitte à être exploité et maltraité. Mais il y a aussi des gens qui se trouvent en Libye parce que c'est la voie d'accès la plus courte pour se rendre en Europe. Donc, à partir du moment où vous ouvrez d'autres voies d'accès à l'Europe, à toutes ces personnes... Eh bien, le chemin de la Libye n'est plus obligatoire. C'est pour ça que je dis qu'il faut traiter le problème bien en amont. Aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas la solution. Mais déjà, si on les laisse partir, ceux qui sont là, ceux qui essayent de partir et qu'on empêche de partir, c'est déjà une toute petite partie de la solution.
Emmanuel Macron était interpellé le 21 novembre dernier par une bénévole des Restos du Cœur. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron, une partie de la réponse d'Emmanuel Macron sur BFM Télé.
Ce qu'on doit, c'est accueillir tous les gens qui arrivent, parce que tant qu'on ne sait pas s'ils sont éligibles à l'asile ou pas, on ne doit pas regarder, il ne doit pas y avoir de conditions. Et moi, je n'accepte pas le discours sur les concurrences de la misère. Ensuite, on doit accélérer les choses pour que très vite, on sache si c'est quelqu'un qu'il faut protéger. L'asile, ça ne se discute pas. Et jamais la France ne discutera d'asile. Et ça, moi, j'en suis le garant.
Le garant, sur BFM TV, donc, Daniel Lechac.
Alors, il y a deux choses dans ce discours. Il y a d'abord la différence, ça ne s'entendait pas dans l'extrait que vous avez donné, mais la différence claire qu'il fait entre ceux qui demandent l'asile et ceux qui ne sont pas éligibles à l'asile. Et puis, l'autre aspect, c'est les demandeurs d'asile, ça ne se discute pas, nous les accueillons. Bien là, malheureusement, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que... on voit bien que depuis les années 1980, parce que c'est déjà dans les années 80, on parlait de crise de l'asile. Depuis les années 80, tous les pays européens ont pratiqué une politique restrictive de reconnaissance de la qualité de réfugié, à tel point que les taux de reconnaissance qui étaient classiquement de 90%, alors c'est vrai du temps de la guerre froide, hein, où n'importe qui arrivait de Pologne ou de Hongrie, on discutait pas, on lui posait pas de questions, est-ce que vous craignez vraiment personnellement d'être persécuté, on lui accordait la qualité de réfugié. Donc à partir des années 80, lorsque les flux de réfugiés se sont redensifiés, venant du tiers-monde, dans un contexte où on fermait les frontières déjà, hein, puisqu'on parlait de maîtrise des flux migratoires, à ce moment-là, on a commencé à parler de faux réfugiés, de baisse de la qualité de la demande, de réfugiés économiques, et les taux sont descendus à 10% de reconnaissance. Donc déjà...
Pour un même flux d'arrivées?
Pour un, était plus important.
Les flux sont plus importants.
Oui, oui.
Est-ce que la question n'est pas là, Daniel
Lechac? Normalement,
on parle de maîtriser les flux aujourd'hui.
Oui, sauf que quand on dit maîtrise des flux migratoires, théoriquement, c'est hors asile. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf que, à partir du moment où on a dans le collimateur les flux migratoires en général, on a tendance à considérer que ceux qui viennent détournent la procédure d'asile de son fonctionnement. Mais il y a quand même une grande différence entre hier et aujourd'hui. C'est qu'hier, s'il y avait tous ces demandeurs d'asile qui arrivaient et qui étaient déboutés à tel point qu'en 1991, il a fallu prévoir un mécanisme de régularisation des demandeurs d'asile déboutés. Aujourd'hui, le tableau est différent, car aujourd'hui, ils n'arrivent plus. Et c'est ça qui est très hypocrite aussi dans la proposition de Macron. Mais il n'est pas seul, hein. Je veux dire, toute l'Europe fonctionne comme ça, toute l'Union européenne fonctionne comme ça. C'est qu'aujourd'hui, on empêche les gens d'arriver. On empêche les gens d'arriver avec la politique des visas, avec la politique avec Frontex, avec des concepts comme ceux de pays tiers sûrs. S'ils sont sûrs, eh bien, on peut renvoyer des gens vers ces pays-là.
Il y en a quand même qui arrivent, il y en a quand même qui passent à travers les mailles du filet. Ah bah, 76 000 demandeurs en 2016.
Oui, mais
et d'ailleurs, les conditions se sont sans doute durcies, effectivement, puisque sur ces 76 000 demandes, un demandeur sur trois l'a obtenu.
Oui, mais alors, voilà, la différence aussi, c'est que depuis la crise syrienne, les personnes qui arrivent, mais à quel prix ? C'est ça aussi. Avant, ceux dont je vous parle dans les années 80, ils arrivaient en avion, en bateau. Ils risquaient pas leur vie pour arriver. Tandis qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent, ils ont risqué leur vie, ils ont risqué leur sécurité physique. On est d'accord. Il y en a très peu qui arrivent normalement. Et par conséquent, par rapport à ces personnes-là, si les taux de reconnaissance ont augmenté, c'est que ces derniers temps, ce sont des Syriens, ce sont des Afghans, ce sont des Soudanais qui ont demandé l'asile. Et là, il est quand même difficile de prétendre, encore qu'on le fasse de temps en temps, que ce sont des migrants économiques. Et donc, comme plutôt que de leur reconnaître la qualité de réfugié ou de leur accorder la protection subsidiaire, qu'est-ce qu'on fait là aussi ? Le but, c'est de bloquer en amont. Et aujourd'hui, en fait, on bloque en amont, y compris des Syriens, c'est-à-dire, on voit bien avec l'accord UE-Turquie, qui est typiquement fait pour les Syriens, donc des gens dont on ne conteste pas le besoin de protection et que malgré tout, on n'accueille pas. Donc, c'est pas vrai que l'asile ne se discute pas, ce que dit Emmanuel Macron. Le fait est que même l'asile se discute.
Et d'un point de vue politique, comme vous le dites, Daniel Lechac, bien plus que d'un point de vue juridique, parce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, finalement, c'est le droit qui n'est plus adapté. Vous dites non, le droit, bon, il peut toujours bouger.
Alors, c'est-à-dire que le droit, on le détourne. C'est très intéressant.
Oui, vous parlez de contournement de la Convention de Genève.
La Convention de Genève, son défaut, c'est que elle n'oblige pas les États à accorder l'asile. Hein, elle dit simplement qui doit être considéré comme réfugié et ensuite, d'ailleurs, la qualité de réfugié est recognitive. Donc, quelqu'un qui se présente comme réfugié doit être traité comme un réfugié, quitte ensuite à ce qu'on considère qu'il ne l'est pas. Et ce qui se passe, c'est que, par contre, la Convention de Genève prévoit une obligation de non-refoulement. On n'a pas le droit de refouler quelqu'un vers le pays de persécution ou vers un pays où il risquerait d'eux. Et ce qu'on voit bien, c'est que, du coup, il ne faut surtout pas qu'ils arrivent. Parce qu'une fois qu'ils arrivent, on est obligé de traiter leur demande.
La CIMAD, qui est une autre organisation de soutien aux migrants, et parle dans un billet de blog d'une proposition de loi téléguidée pour enfermer massivement les demandeurs d'asile. En évoquant le gouvernement d'Édouard Philippe qui va annoncer pour le début de l'année 2018 un projet de loi immigration et asile pour réformer en profondeur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, eh bien la CIMAD évoque une proposition de loi téléguidée par le gouvernement, qui va beaucoup plus loin que ce que prétend, là encore, le gouvernement. Vous avez entendu parler de ça, Daniel Lechac ?
Oui, alors,
c'est tout récent, ça date du 28 novembre.
Oui, de l'opposition, mais bon, téléguidé par le gouvernement, je ne sais pas. C'est toujours difficile, en plus, de se prononcer sur... Enfin, quelquefois, c'est des effets d'annonce et tout, donc j'hésite un peu à me prononcer, mais c'est vrai que de ce qu'a dit le gouvernement, en tout cas, il y avait la proposition de pouvoir prolonger la rétention jusqu'à 90 jours, qui est déjà actuellement à 45, et également de pouvoir enfermer les demandeurs d'asile, ce qu'en principe on ne fait pas pour l'instant. C'est-à-dire les gens qui sont demandeurs d'asile, puisque tant que leur demande n'a pas été traitée, on ne peut pas les enfermer. Alors c'est toute la question de Dublin là qui est en fait sous-jacente, mais peut-être que c'est on peut s'en passer.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Et je suppose qu'on peut s'en passer juste pour une question temporelle. Il est 8h30, il est même 8h31 sur France Culture. C'est l'heure de retrouver la revue de presse de Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
Comme chaque samedi, une revue de presse qui revient sur un certain nombre de sujets de la semaine qui ont été nourris par des débats, des réflexions ou des enquêtes que vous avez sélectionnées dans les journaux. Et on commence avec une question. Le Parti Socialiste va-t-il disparaître?
Et oui, question posée cette semaine par un sondage au Doxa commandé par Le Figaro et France Info. Et la réponse des sondages et oui, temporairement pour 51%, définitivement pour 23% d'entre eux, ce qui donne tout de même 74% des Français peu optimistes quant à l'avenir du parti. Et ce n'est pas Benoît Hamon qui dira le contraire, puisque même l'ancien candidat du parti pour la présidentielle a quitté le navire. Il lance d'ailleurs aujourd'hui au Mans le congrès fondateur de son propre mouvement, le M17-17, le mouvement du 1er juillet. Alors que s'est-il passé au Parti Socialiste? C'est la question que pose la revue L'Ours dans un numéro hors série. L'Office universitaire de recherche socialiste a réuni les contributions de nombreux chercheurs et militants. L'historien Alain Bergougnou revient notamment sur la terrible année 2016, la dernière du quinquennat et ses deux lois qui ont déboussolé l'électorat socialiste, la déchéance de nationalité et la loi El Khomri. Mais ce qu'il interroge, c'est surtout la transformation profonde du parti. Le PS est devenu un parti d'élus plus que de militants, constate-t-il, une communauté d'intérêts plus qu'une communauté de destin. Alors la refondation passera par deux questions clés et liées entre elles. Quelle doit être la culture commune des socialistes et quelle offre politique nouvelle pour les Français ? Quelques pistes relevées dans ce numéro. Intégrer la dimension écologiste au socialisme pour Isabelle Thys-Saint-Jean, par exemple, membre du Bureau national. Revenir aux fondamentaux pour l'eurodéputé Emmanuel Maurel, ceux de la contestation radicale du système économique. Pour d'autres encore, c'est l'histoire centenaire du parti qu'il faut, c'est dans l'histoire centenaire du parti qu'il faut chercher les idées de demain.
Autre sujet, alors que les températures ont baissé cette semaine et que l'hiver s'installe, les sans-abri.
Et oui, c'est le journal Le 1 qui consacre ses pages cette semaine à ceux qui font la manche et qui dorment dehors. Enfin, surtout au regard que nous portons sur eux. Regard de compassion, parfois regard de peur surtout. Ils sont un miroir affolant, écrit Laurent Kalsheimer dans son édito. Et si c'était moi demain? Et si j'en étais aussi réduit à mendier? Pourtant, cette peur est un fantasme, poursuit le cofondateur du journal. On devient rarement mendiant par hasard. Autre préjugé qui nous aveugle et sur lequel revient le journal, non, la mendicité n'est pas un phénomène massif en France. Alors, ils sont tout de même 141 000 selon l'INSEE, auquel il faut ajouter les personnes qui vivent dans les bidonvilles. Cela fait environ 160 000 personnes. Et c'est Nicolas Clément, bénévole au Secours catholique, qui donne ces chiffres. L'idée n'est pas de minorer le problème, mais de déconstruire quelques clichés. Et ce que nous raconte aussi ce bénévole qui accompagne les familles à la rue, c'est que mendier est un véritable travail, un boulot pénible physiquement et psychologiquement. Près de la gare de Lyon, à Paris, les mendiants embauchent à 7h45, raconte-t-il, et terminent à 18h. Et c'est surtout un travail qui ne rapporte pas grand-chose, entre 5 et 15 euros par jour. Et puis, il y a beaucoup de concurrence. Alors, on arrête là la métaphore avec le travail. Mais heureusement, il reste un peu de solidarité dans ce monde. Le 1 nous parle par exemple de Carillon, un réseau de 600 commerçants signalés par un pictogramme devant leur devanture. Les sans-abri peuvent y trouver un café, accéder aux toilettes ou encore faire chauffer un biberon.
Et on termine avec une photo dans les camps des réfugiés Rohingyas au Bangladesh.
Et oui, c'est la photo de la semaine de l'Obs. Elle est signée Adam Dean, un photographe américain en reportage dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. C'est un gros plan sur le foyer de fortune d'une famille réunie autour d'un feu à même le sol. Les regards se perdent au loin, il se dégage une grande lassitude mêlée de fatalisme à la photo. Ils sont désormais 620 000 à avoir fui les viols et les meurtres dans leur pays et à s'entasser dans ces camps. Le pape François était en visite cette semaine en Birmanie pour tenter de faire passer un message de paix aux autorités, mais on voit bien les limites de la diplomatie vaticane, écrivait Le Monde dans son édito hier. Il savait qu'on attendait de lui un message fort sur la répression des Rohingyas. Le pape n'aura pas une seule fois prononcé leur nom. C'est une question d'habileté diplomatique, explique le journal, car le message de François était sans ambiguïté. Il a appelé au respect des droits et de la dignité de tous les groupes ethniques. A-t-il été entendu? C'est la question qui se pose maintenant.
Merci Mélanie Chalandon pour cette revue de presse que vous avez attentivement écoutée. Daniel Lechac, une réaction ou pas, hein, vous n'êtes pas absolument pas obligé à ce que vous venez d'entendre, soit sur les Rohingyas et la visite papale, soit sur le Parti socialiste qui n'en cesse de mourir et de renaître.
Non, j'ai rien à dire. Bon, sur les Rohingyas, c'est vrai que ça fait partie d'un de ces drames incroyables, enfin, au XXIe siècle, contre lequel les Nations Unies sont impuissantes. C'est dramatique, quoi.
Qui est puissant aujourd'hui les Nations Unies ne le sont pas, si les politiques nationales et européennes sont hypocrites, que reste-t-il le monde associatif?
Le monde associatif qui essaye quand même de se mobiliser, et pas seulement d'ailleurs des citoyens. Il y a quand même ce qui rend un petit peu optimiste, c'est que il y a des mobilisations. Hein, par exemple, 500 organisations, alors des très grosses et des toutes petites, se mobilisent pour mettre en place des états généraux pour une autre politique migratoire.
Donc
en
Amnesty International, le Secours catholique, la Croix-Rouge française, Médecins du Monde, le Justice, voilà, auquel vous appartenez aussi.
Le Justice n'est pas dans les gros, mais enfin, dans les moyens. Et puis surtout, beaucoup de petites associations de terrain, que ce soit à Calais, que ce soit à La Roya, que ce soit à Paris, qui sont là aussi. Et ça, c'est bien sûr positif. Maintenant, il faut que comment est-ce que modifier la vision de l'opinion publique, puisque là, on constate un phénomène, disons, un cercle vicieux ou une dialectique négative, puisque les hommes politiques, enfin la classe politique, disons, tente de se mimétiser sur l'opinion pour des raisons électorales, disons, électoralistes, et l'opinion elle-même est quand même beaucoup formatée par le discours de la classe politique. Donc comment sortir de ce cercle vicieux en faisant entendre une autre parole, en obligeant la classe politique à modifier son discours? Ça, c'est un vrai enjeu, mais ça fait quand même des années et des années qu'on essaye de le tenir. Et puis, vont se tenir également à Paris, une session du Tribunal permanent des peuples, vous savez, cette institution qui a été mise en place au départ pour le Vietnam, hein, le Tribunal Russell. Et là, c'est sur les politiques migratoires, et la session de Paris, ce sera en janvier. Et là, il s'agit d'examiner l'ensemble des crimes, finalement, commis par... des crimes au sens large, au sens figuré ou au sens propre, commis directement par l'Union européenne ou... avec la responsabilité de l'Union européenne. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe en Libye, et là on peut affirmer qu'il y a une responsabilité propre de l'Union européenne et des États européens.
Daniel Lechac, vous avez participé à un ouvrage collectif qui en fait est un des actes d'un colloque qui s'est tenu au Collège de France sous la direction de Patrick Boucheron et qui est donc édité chez Odile Jacob. Il s'intitule « Migration, réfugiés, exil ». Vous y avez contribué. Votre contribution est un retour à l'histoire précisément de ce terme de droit d'asile. Hein. Le titre de votre contribution, c'est « Protéger ou refouler le droit d'asile à l'épreuve des politiques migratoires ». Vous montrez, c'est là que vous parlez de contournement de la Convention de Genève, vous montrez quand même, et vous vous demandez d'ailleurs si un jour dans l'histoire des peuples, des États ont effectivement ouvert généreusement leurs frontières à des gens qui fuyaient en masse les persécutions, alors que nous avons tous grandi dans l'idée que la France était terre d'asile. C'est donc un mythe.
C'est un mythe. C'est-à-dire que la France a été terre d'asile au XIXe siècle pour les quelques centaines de personnes qui luttaient pour un État ou qui luttaient contre les monarchies autoritaires en Europe. Elle a été terre d'asile après la guerre pour les gens qui venaient des pays de l'Est, mais dans un contexte de guerre froide où il y avait aussi un enjeu politique à les accueillir et où on avait de toute façon besoin de gens pour travailler. Elle a été terre d'asile très brièvement au moment des boat people. Elle a été terre d'asile pour les réfugiés chiliens qui étaient tout bien comme il faut, européens, blancs, chrétiens et tout ce qu'on veut. Donc elle a été terre d'asile à certains moments, mais au moment de la Révolution française également. Mais sinon, à chaque fois qu'il y a des masses de réfugiés à accueillir, eh bien ça ne marche plus. Et c'est vrai que nous avons fait la comparaison, mais qui aujourd'hui est quand même admise par beaucoup de personnes, parce que toujours quand on parle du nazisme ou de Vichy, on nous dit vous faites des amalgames. Non, car quand même, ce qu'on constate, si on revient sur ce qui s'est passé avant la guerre et pendant la guerre, c'est que les pays, tous les pays du monde, et là je ne parle plus de la France, hein, encore que la France était dans le lot, se sont fermés comme des huîtres, à mesure que le danger pour les réfugiés, et notamment les réfugiés juifs, augmentait. C'est-à-dire qu'on a fermé les frontières, on a dit on n'en veut plus, on en a trop. Il y en a qui ont dit même on ne veut pas de juifs. Ça, c'était l'Australie qui a dit nous n'avons pas de problème racial chez nous, donc nous ne voulons pas en créer. Et donc, la conférence d'Évian, qui s'est tenue en 1938, sous l'égide de Roosevelt, a été un échec à ce moment-là.
Et vous êtes donc quelques-uns aujourd'hui à effectivement dire que le parallèle entre la situation des réfugiés aujourd'hui et celle des juifs fuyant le nazisme hier n'est pas aberrant. Quoi qu'on pourrait vous rétorquer, oui, mais alors qui est Hitler aujourd'hui? On peut rentrer sans fin dans ce débat-là, je vais faire comme vous tout à l'heure. Allez, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais plutôt dans un débat qui a lieu vraiment aujourd'hui, qui me semble-t-il est très important, parce que très concret, très réaliste. C'est ce débat qui oppose, qui fait la distinction entre les migrants économiques et les réfugiés. Est-ce que le bas ne blesse pas à cet endroit-là? Quelle est votre position sur cette question?
J'ai trois réponses. La première, c'est que ça n'est pas si facile d'expliquer pourquoi les gens fuient, parce que les raisons de fuir sont quand même souvent très très mélangées. Je veux dire, souvent, il faut qu'ils se mêlent à la fois la misère et la tyrannie. La deuxième raison, je dirais qu'elle est de la façon de savoir quelle est notre responsabilité. C'est bien joli de dire que nous ne sommes pas responsables de la misère en Afrique. Oui, bien sûr, les pays du Nord ne sont pas entièrement responsables, mais ils ont quand même leur part de responsabilité, enfin, de misère, ou de, disons, tous les pays d'Afrique ne sont pas misérables, mais disons de l'économie qui ne se développe pas bien, nous en sommes quand même responsables, souvent, au moins indirectement, à cause de l'action des multinationales, mais aussi à ce qu'on appelait dans le temps les termes de l'échange, qui ne sont jamais favorables aux pays du Sud. Donc, les pays du Nord sont aussi responsables de ce qui se passe là-bas. Et puis, j'aurais une troisième réponse qui, elle, est éthique, hein, qui est qu'après tout, est-ce que nous pouvons, nous qui plaidons pour l'universalité des droits de l'homme, accepter que le monde soit divisé en deux humanités, celle qui vit dans des pays à peu près riches, où on mange bien, où on est soigné, etc., où on est à peu près en démocratie et qui peuvent voyager absolument comme ils veulent, et une autre partie de l'humanité qui est justement dans les pays les plus pauvres, les plus déshérités, les plus là où règnent souvent des dictatures, et qui, eux, sont assignés à résidence et ne peuvent pas se déplacer.
Deux choses, si vous le permettez, Daniel Lechac, à partir de ce que vous avez dit. C'est vrai quand même que même dans nos pays démocratiques vivent un certain nombre de pauvres. On en a parlé tout à l'heure, par exemple, dans le journal Le 1, avec les sans-abri qui ne sont pas juste dans des pays lointains, qui sont aussi au bas de nos portes. Et deuxième réaction à ce que vous venez de dire, si on n'arrive pas à savoir d'où ils viennent et à faire la part entre les migrants économiques et les réfugiés, alors que veut dire le droit d'asile? Parce que malgré tout, le droit d'asile, il est défini juridiquement comme s'appliquant à des gens qui sont persécutés en raison de convention de Genève, Daniel Lechac. Donc si vous dites, oui, mais aujourd'hui c'est plus compliqué, donc ici tout le monde se mélange, alors comment vous faites pour distinguer? On ne peut pas accueillir tout le monde sous le régime du droit d'asile.
Ah non, sous le régime du droit d'asile, certainement pas. Mais ouvrir les frontières à des gens qui viennent sans les obliger à périr en mer, c'est quand même un vrai problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut prendre aussi le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire voir à quoi aboutissent les politiques actuelles. Et moi, j'ai sous les yeux à la fois le rapport de François Crépeau, qui était rapporteur pour les droits de l'homme des migrants de l'ONU. J'ai sous les yeux le rapport plus récent de la rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Et tous les deux nous font un tableau de la politique européenne d'immigration et d'asile qui viole manifestement et grossièrement l'ensemble des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être enfermé. Tous ces droits sont violés de façon évidente. Donc, ça veut dire que, réfugié ou non, il y a là un vrai problème dont il faut se saisir.
Allez, Daniel Lechac, il est 8h46. 8h46, c'est l'heure de l'idée culture. Chaque samedi, une personnalité du monde des idées nous confie son choix d'une œuvre artistique qu'il a particulièrement marqué dans sa vie. Aujourd'hui, point d'interrogation, Mélanie Chalandon, il s'agit de...
Francis Wolff, qui est donc philosophe, professeur à l'École normale supérieure à Paris. Francis Wolff a écrit sur l'amour, sur la musique, sur la corrida. Son dernier ouvrage vient de paraître, « Trois utopies contemporaines » chez Fayard. Et quand je lui ai posé la question de nous faire part de son choix, bien la réponse était totalement évidente.
J'ai su immédiatement que c'était de la musique, parce que c'est l'art qui m'est le plus familier. Je me suis dit, au fond, si je me mettais au piano maintenant, qu'est-ce qui me viendrait dans les doigts et qu'est-ce qui me vient forcément à la mémoire? Le clavier bien tempéré de Bach. Donc je vais vous parler du clavier bien tempéré de Bach. Pour moi, c'est quelque chose qui est, disons-le de façon un peu solennelle, ce qu'il y a de plus précieux dans la musique. Pourquoi ce qu'il y a de plus précieux? Parce que voilà une musique qui n'exprime rien. Elle n'est ni triste ni gaie. Aucun prélude, ou presque, vous pouvez dire « Ah, ça c'est gai, ah, ça c'est triste » quand vous entendez une sonate de Schubert, « Ah, ça me fait pleurer, tout ça. Bon. » Non, mais ça me bouleverse, moi, précisément parce que il n'y a pas d'émotion qui soit exprimée. Ça a l'air paradoxal, mais... Il n'y a pas d'émotion en elle, pas de gaieté, pas de tristesse. Il n'y a pas d'émotion que ça exprimerait, mais l'émotion est entièrement en nous parce que c'est une musique qui, en quelque sorte, réalise, qui pour moi est un peu la définition de la musique. Ça nous met dans un monde d'événements où il n'y a que des événements purs, sans choses, où les choses et le monde sont devenus superflus et où il n'y a plus que ces événements sonores qui disent, qu'on le veuille ou non, l'harmonie du monde. En tout cas, c'était sans doute un des objectifs de Bach. Je crois que cette musique nous permet de comprendre ce que c'est que l'émotion esthétique elle-même, ce que c'est que la beauté elle-même. Comment on va la reconnaître, cette beauté? Je dirais que pour la reconnaître, je crois qu'il y a un signe qui ne trompe pas. Quand nous entendons une musique qui à la fois nous semble totalement imprévisible lorsqu'elle advient, mais lorsqu'elle est advenue nous paraît absolument nécessaire, eh bien nous avons affaire à une musique qu'il n'y a pas d'autre moyen que de qualifier de belle. Et c'est vrai que c'est un exploit parce qu'on a le sentiment qu'il peut partir de n'importe quelle note et explorer tout le clavier, explorer toutes les possibilités de l'harmonie, du contrepoint, comme on explore la planète, comme on explore le monde, et en revenant toujours au même point. On a une espèce d'immense variété possible dans... toujours l'unité d'une forme qui est soigneusement tenue.
Est-ce que vous vous souvenez de la fois où vous l'avez entendu et joué pour la première fois?
Je l'ai joué, je devais avoir 15 ans peut-être, j'ai joué le deuxième prélude des fugues en do mineur. Et ça, évidemment, ça m'a fasciné, ça m'a... Et j'en ai éprouvé immédiatement, comment dirais-je, c'est une musique qui m'a fait comprendre que j'aurais toujours plus de plaisir à la jouer mal qu'à l'entendre jouer bien. Alors que d'autres musiques, des musiques dans lesquelles il faut transmettre une émotion qui se trouve dans la musique, je sais que les grands interprètes sont inimitables. Mais là, cette musique, il suffit, j'allais dire, d'être face à la partition et de se mettre à la jouer comme on peut, eh bien, elle vous donne les plus grands plaisirs parce qu'on la comprend de façon intime beaucoup plus et beaucoup mieux quand on la joue.
Et pourtant, ça n'est pas lui qui joue là, Mélanie, parce qu'il préfère la jouer mal que l'entendre jouer bien, mais il a refusé de la jouer devant vous.
Non, Francis-Joff n'osait pas la jouer devant, ou alors m'a-t-il dit micro fermé, mais bon, micro fermé, je n'aurais pas pu vous la rapporter. Alors,
vous disiez qu'il avait écrit notamment sur la musique, il y a un grand livre.
Et oui, effectivement,
sur la musique.
Pour prolonger la réflexion philosophique sur l'art des sons, la musique, je vous conseille de lire Pourquoi la musique, écrit par Francis Wolff, et c'était paru en 2015 chez Fayard.
Merci beaucoup Mélanie. Daniel Lechac, vous jouez d'un instrument de musique ?
Non, malheureusement, de fait, non. Et je suis pleine d'admiration pour ce type d'analyse que je serais bien entendu totalement incapable de faire.
Plongez-vous dans l'ouvrage Pourquoi la musique de Francis Wolff, qui est absolument passionnant, ardu, mais passionnant. Et bonjour à vous, Jackie Durand.
Bonjour Caroline.
Dites donc, vous avez mis un gros pull ce matin. Il me semble que vous avez eu froid et que précisément vous voulez nous parler du temps qu'il fait.
Oui, je vais vous parler du temps qu'il fait et de cette neige qu'on a vu tomber cette semaine. Cette neige, ou plutôt, on va dire qu'il neigeotait, parce que nous, on a une vraie affection pour les tout petits flocons, ceux qui tombent un petit peu dru comme ça, de biais. Vous savez, nous, c'est fou ce que la neige, en fait, ça nous émeut. Ça nous rappelle une première gorgée de Condrieux, comme ça, un premier livre, un premier rendez-vous. Il y a quelque chose de la vie qui va dans la neige qui revient, et aussi d'une petite mort, celle des dernières feuilles des arbres, des salades du jardin, comme ça, qui vont être recouvertes de neige. On veut pas vous parler de la neige bling-bling, celle des stations de ski comme ça, foisonnante. Non, on veut vous parler de la neige du boulevard. Vous savez, cette petite neige qui colle comme ça, et puis contre laquelle on va pester comme ça quand on attend le tram ou qu'on pédale comme ça dans Paris.
Daniel Lechac, vous, la neige qui tombe, ça vous émeut aussi ?
Ah, moi j'aime beaucoup la neige qui tombe, mais j'aime aussi la neige à la montagne.
Elle n'est pas forcément bling-bling, quoi, les stations de ski quand même. Il y a des petits villages qui ne sont pas forcément bling-bling. Bon, c'est pas le sujet, d'ailleurs, vous m'étonnez beaucoup, parce que le sujet de Jackie Durand, c'est une chronique culinaire. Jackie Durand est journaliste culinaire à Libération. C'est les mitonnages de Jackie Durand, mais non, il veut que nous fermions les yeux, n'est-ce pas, Jackie ?
Oui, vous ouvrez les volets ?
Allez.
Vous ouvrez les volets, vous sentez l'air. Et vous savez, c'est l'air qui sent, comme ça, l'air qui est un peu mat au son. Et c'est l'air qui sent le feu de bois. Vous savez pas d'où il vient. Le ciel, comme ça, est une couleur qu'on aime beaucoup, qui est la couleur, dirons, pierre de lune. Et puis, vous connaissez cette chanson de Stéphane Escher, Déjeuner en paix, qui dit « Je regarde sur la chaise le journal du matin, les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger ?» me demande-t-elle soudain. Et soudain, comme ça, vous avez dans la mire de votre mug les premiers flocons. Et nous, ces premiers flocons, ils nous plantent de fameux crottes fins dans le ventre.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des flocons pour que vous vous mettiez au fourneau. C'est bien la première fois que vous dites ça.
La neige, c'est une formidable page blanche pour cuisiner. Alors évidemment, la neige, ça dit l'autarcie. Vous savez, ce côté heimat que peut avoir la cuisine de l'hiver. On imagine la saucisse de Morteau pendue après la charpente, la réserve de pommes de terre, les conserves comme ça, l'autosuffisance. Mais en même temps, ouvrir la fenêtre sur la neige, c'est aussi une formidable évasion. Parce qu'en fait, la cuisine d'hiver, ce temps un peu gris comme ça, il appelle aussi les senteurs et les envies de l'autre bout du monde. Vous savez, l'orange qu'on va déguster comme ça, l'orange de plein soleil qu'on aime manger l'hiver. On pense aussi au litchi qu'on voit apparaître sur les étals, à tous ces fruits. On pense aussi aux dattes, par exemple, qu'on va fourrer avec de la pâte d'amande, aux épices, par exemple, comme la cannelle, le vin chaud, ou vous savez, ces petits biscuits qu'on appelle les bredelets qui sont fourrés d'épices en Alsace. Alors nous, quand la neige revient, on n'a pas spécialement envie de tartiflette ou de fondue savoyarde. Non, nous, on est un peu comme un Anglais sous la pluie rêvant de voitures décapotables. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie de choses qui réchauffent comme ça. On projette de faire un chutney de Noël avec des pommes, des fruits secs, du 4 épices. Une marmelade de clémentine avec des graines de coriandre. Alors, on sait, ce matin, c'est pas du tout raisonnable. Mais on a envie de vous donner une recette de vin chaud.
Ah oui, c'est pas raisonnable.
Hein?
9h du matin.
C'est pas raisonnable. Et vous savez, le vin chaud, en fait, c'est un plat plutôt. C'est une boisson qui est vraiment fédératrice. On la retrouve comme ça dans tous les pays. Elle associe aussi bien le Prolo que le CRS, j'ai vu ça au marché de Strasbourg, une petite gorgée de vin chaud. Et la recette qu'on a trouvée d'ailleurs, c'est une recette qui vient de Strasbourg, de l'association de la tribu des gourmets du vin blanc, du vin d'Alsace plutôt on va dire, parce que nous on l'a fait avec du vin blanc, ça change du vin rouge et c'est franchement meilleur.
Et là vous allez vraiment nous donner la recette du vin chaud là ? Oui, vous comptiez. Bon, alors, on vous écoute.
C'est facile.
8h55, préparez vos crayons.
Recette de vin chaud avec du Riesling. Vous prenez une bouteille de Riesling, vous prenez une orange, un demi-citron, vous coupez en morceaux vos agrumes, vous mettez avec le vin, vous ajoutez 3 bâtons de cannelle, 2 anis étoilés, 10 morceaux de sucre. Vous mélangez doucement pour que le sucre se mêle bien au liquide. Vous faites chauffer. Mais tout doucement aussi, vous ajoutez une bonne cuillère à soupe de miel, par exemple du miel de sapin des Vosges. Vous le mélangez jusqu'à ce que l'ensemble frémisse comme ça. Surtout, vous ne laissez pas bouillir. Et quand ça frémit, vous arrêtez et vous laissez infuser une demi-heure. Et puis, vous réchauffez légèrement avant de servir. C'est à la fois une boisson pour, comme ça, une petite réunion impromptue en plein air, mais aussi une boisson qu'on peut déguster pendant une balade hivernale, par exemple.
Daniel Lochac.
Oui, mais je vais le réécouter pour la faire, la recette.
Oui, puis on la mettra sur le site internet. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je pense que vous n'êtes pas la seule à avoir pu, avec votre stylo, noter toute la recette de Jackie Durand. Vous allez vous rendre, Daniel Lochac, dans quelques minutes après cette matinale. Vous allez vous rendre à l'université d'automne de la LDH, de la Ligue des droits de l'homme, sur le thème de la santé dans tous ses états. Alors, je ne sais pas si la recette du vin chaud est particulièrement appropriée, quoique ça fait du bien quand on en consomme avec modération, n'est-ce
pas ?
Et
on peut aussi préparer bien sûr d'autres boissons chaudes avec des épices quand il fait froid, comme par exemple un thé dans lequel on peut ajouter des épices, mais également aussi toutes sortes de tisanes dans lesquelles on peut ajouter effectivement de la cannelle, de la coriandre et de l'anis étoilé.
Merci beaucoup Jackie Durand pour ces mitonnages du samedi. On va terminer avec vous Daniel Lochac et le choix musical de l'invité. Vous avez choisi une chanson ad hoc, j'ai envie de dire, c'est-à-dire adaptée au sujet qui a été le nôtre ce matin. Vous nous en dites un mot avant qu'on l'écoute ?
Oui, bien sûr, c'est Les Petits Papiers, revue et corrigée par une kyrielle d'artistes célèbres qui, en 1999 déjà, ont participé à un grand concert pour logistique qui s'appelait Liberté de circulation. Donc ça a donné aussi, il y a aussi un clip d'ailleurs qui va avec et vous allez l'entendre cette version qui est sans doute un extrait, je suppose.
C'est un extrait.
Parce que ça dure 4 minutes.
On peut entendre Jeanne Balibar, Rodolphe Burger, Théo Acola et d'autres encore.
Laissez parler des petits papiers, à l'occasion papier chiffon, est-il un soir papier buvard, vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. D'amour papier velours et d'esthétique papier musique, c'est du chagrin papier dessin avant longtemps. Laissez glisser papier glacé.
Merci Daniel Lochac, vous vouliez dire
non,
rien du tout. Très bien, merci beaucoup d'être venu au matin du samedi. Je rappelle le titre de l'ouvrage que nous avons juste évoqué, auquel vous avez contribué, Acte du colloque, sous la direction de Patrick Boucheron, Migration au pluriel, Réfugiés au pluriel, Exil au singulier, avec une introduction de l'administrateur du Collège de France, Alain Prochian, et la participation d'un certain nombre de chercheurs spécialistes du sujet. C'est paru chez Odile Jacob. Dans un instant, c'est les informations suivies de répliques par Alain Finkielkraut. Ce soir, ne manquez pas la diffusion de la soirée spéciale Mauvais Genre à l'occasion des 20 ans de l'émission de 20h à 23h. Les matins du samedi de France Culture @LMDS sur Twitter se prolongent, se réécoutent, ce podcast sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux. Si vous vous réveillez maintenant, vous pouvez rattraper les 2 heures en streaming. Ces matins ont été préparés avec Mélanie Chalandon, réalisés par Doria Zénine. À la technique aujourd'hui, c'était Pierrick Monsigny.